scientists. They'll talk about their concerns for science in their country, what they foresee.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Café, votre émission d'art et culture du vendredi. Ici Esther Brodage en microphone et je suis avec Lynn cette semaine. Bonjour Lynn.
Allô, allô.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, toi?
Chouette, alors. Donc, de quoi vas-tu nous parler cette semaine?
Alors, cette semaine, je vais vous parler du show que je suis allée voir dimanche qui s'appelle « Moins au sujet de moi ». Et je vais vous faire aussi une petite sélection musicale des nouveautés de cette semaine.
Ouais, chouette. Donc, tu m'entends bien dans les écouteurs. D'accord. Je vais vous parler du Festival du Nouveau Cinéma qui s'est terminé il y a quelques semaines et ainsi que du Jazz Off Festival qui s'est terminé il y a quelques semaines. Je voulais faire un dernier détour pour clore ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Également, bien, côté suggestions culturelles, bien, il y a quelques expos à ne pas manquer dont je vais vous faire part. On pourrait passer en musique tout de suite, pourquoi pas. À CKUT, on reçoit beaucoup de CD, on reçoit beaucoup de musique. Et pour être à jour, je vais vous jouer un album qui est sorti sur... l'étiquette de Quasar Bosini que nous avons reçu en juillet dernier, mais ici à CKUT, mais l'opus est sorti en 2019. Donc c'est un super album de Anna Sokolovic, cette grande compositrice d'origine serbe qui est établie ici à Montréal. Son album s'intitule Short Stories et nous allons jouer la pièce qui s'appelle Isabella. Donc, on vous revient sur Café, il est 6h02. Bonsoir à tous. Vous venez d'entendre une superbe pièce jouée par le Quatuor Bosni, une pièce qui s'intitule Isabella, dont la compositrice est Anna Sokolovitch, une compositrice bien établie ici à Montréal. Donc, c'est tiré d'un album qui s'appelle Short Stories, enregistré à l'Université Concordia, à la salle Oscar Peterson, tout précisément. Et ouais, comme vous avez pu le constater, c'est une superbe. Super musique, très feutrée, douce. Le quatuor à cordes ont une très bonne chimie entre eux, les musiciens, je veux dire. Donc, ouais, c'est super interprétation. Et quoi dire sur l'album? Bien, c'est sorti en 2019 sur l'étiquette, justement, du quatuor bosnien qui s'appelle Cubé. Et nous, à CKUT, bien, on l'a reçu en 2022. Donc, le temps... la pandémie et tout. Vous avez pu le constater. Et c'est un hommage au peintre Guido Molinari. C'est un peintre d'abstraction géométrique ici au Québec qui est fort connu. Voilà. Passons aux suggestions culturelles et aussi à la clôture du Jazz Off et du Festival du Nouveau Cinéma. Bon, débutons avec... une suggestion d'art visuel pour la fin de semaine. Demain débute la nouvelle exposition solo de Lucie Rocher. C'est une photographe d'origine française qui est établie ici à Montréal. Elle expose dans Villeray à ce lieu qui s'appelle le Hangar 7826. Et c'est situé non loin du métro Jarry. Et allez sur le site internet, puisque même l'adresse et le nom de la rue, tout est assez mystérieux et assez vague. Allez sur soit les réseaux sociaux, le site web, ça s'appelle le Hangar 7826. Et dès demain, bien, Lucie Rocher présente des œuvres qui sont issues de résidences qu'elle a fait soit au Centre Clark, à Montréal, à Vue, à Québec, au centre Est-Nord-Est, Saint-Jean-Port-Joli, avec ses photos graphiques, qui s'inspire beaucoup des chantiers de construction, qui s'inspire beaucoup de matériaux. C'est très matériel. Il y a une approche très physique avec le médium photo. Elle pousse les limites des matériaux, des matières, des rendus. Donc, je vous lis un extrait du texte qui accompagne son approche. L'image photographique se matérialise ici sur des supports variés, papier, aluminium, verre, plexiglas, et se déploie en correspondance esthétique et formelle avec eux, prélevée dans la nature, sur des matières organiques et artificielles ou encore mises en tension sur l'accrochage de l'exposition, la ligne droite devient un motif commun aux œuvres qui s'accentuent dans ce contexte de diffusion à la construction moderniste. Un plan rapproché d'une maquette de travail, un paysage rempli de bleu, des fils sous tension ou une expérience colorée à la surface de l'eau sont autant de matériaux qui racontent les géographies vécues en résidence. Donc, c'est fort prometteur et inspirant. Donc, le vernissage, c'est demain, de 14h à 17h. Et puis, les heures d'ouverture à ce hangar 78-26, bien, sont du samedi. Ouais, ça, c'est ouvert samedi et dimanche, de 14h à 17h. Et ce rendez-vous également. Donc, voilà, Lucie Rocher, pour quelques semaines. Oui, c'est jusqu'au 13 novembre. Voilà. Félicitations, Lucie. Très inspirant. Également, bien, il y a l'artiste et jeune commissaire, bien, Joy Juma, qui organise une projection de films, de courts-métrages expérimentaux, ouais, le 3 novembre. Au cinéma public. Donc, le cinéma public, c'est un concept de présentation de films, diffusion de films nomades. Et là, à l'occasion, bien, ça sera présenté, je pense, ah oui, c'est ça, à la Casa d'Italia, qui est sur Jean Talon. Oui, c'est ça, sur Jean Talon. C'est une très petite salle, 32 sièges. Il y a entre autres le film À terre de Marie Fagg, une réalisatrice française, Sadovnik, un film canadien. Je ne sais pas c'est qui le réalisateur. Oui, c'est un groupe, ouais, qui s'appelle Primordial Dismemberment, et un film de Mouina Alk, une Libanaise, qui s'appelle... Le film s'appelle Submarine. Donc, voilà, c'est une programmation. Il y a aussi, elle présente également le Monologue du Pan, film de Matthew Walco, qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, toujours le 3 novembre. Donc, et il y a d'autres films également. Donc, c'était un aperçu le 3 novembre. Et ça débute à 20h. Non, à 6h, de 6 à 8. Donc, et il y a un deuxième programme à partir de 8 heures. Voilà. Pour enchaîner avec, je vous disais que je voulais vous parler du Jazz Off. Oui, soulignons le concert de Andrew Boudreau, qui m'a fort plu. C'est un pianiste canadien, natif de Nova Scotia, et puis qui a vécu à Montréal pendant un certain temps et qui est maintenant établi à New York. Il a étudié au New England Conservatory à Boston, et vraiment, il est actif dans la scène de Brooklyn, new-yorkaise, américaine. Il a sorti ce nouvel album qui s'appelle Néon, et puis il jouait au Diaz 11 avec ses collaborateurs. Un ténor saxophone, Neta Raman, un percussionniste. Mais ça, c'est ça, comme je vous dis, je ne suis pas certaine que c'était la même combinaison, mais pour son album, il s'est entouré du saxophoniste ténor Neta Raman et du percussionniste Eviatar Silvik. et d'un autre collègue, la contrebasse, Simon Wilson. Donc, ils étaient en quartet et c'était fort dynamique. Il y a un peu une influence Oscar Peterson et un peu d'influence Monk également. Mais non, c'est son album, c'est que des nouvelles compos. Et c'était fort dynamique, beaucoup de rythmique et une bonne chimie entre les musiciens. C'était fort, fort établi, quoi. Donc, Andrew Boudreau. Et puis, ouais, espérons qu'il vienne jouer à Montréal plus souvent. Et puis, mais il y avait tellement de festivals pendant octobre que j'ai pas pu, malheureusement, aller voir d'autres concerts. Mais vraiment, c'était très marquant. Et ouais, bonne continuité à Andrew Boudreau, le pianiste. Pour clore le Festival du Nouveau Cinéma, bien, oui, soulignons ouais, le bon film de Noam Baumbach, qui est une adaptation du roman White Noise de Don DeLillo. Pour avoir lu le roman il y a quelques années, et je ne suis pas du genre à vouloir comparer si le film a calqué ou non, ou s'est inspiré, ou a reproduit l'humeur. Là, là. Je ne suis pas du genre à faire les parallèles comme ça, mais là, c'est un peu plus fort que moi, puisque c'est un film assez réussi, d'un roman assez fort et important, je trouve, en Amérique du Nord, ce White Noise, bruit de fond en français. Et c'est une critique, mais humoristique, de la société américaine. Et c'est un type d'humour qui fait du bien, hein, puisque un peu grinçant, mais pas trop grinçant. Il y a un ton assez spécial qu'on ne trouve pas dans les films de tous les jours. Donc, on parle beaucoup... bon, le bruit de fond ou le white noise, comment dire, c'est évident dans ce film-là ou dans le roman. C'est tout ce qui est derrière nous, tout ce qui est l'ambiance, le vécu, tout ce qui remplit le silence, finalement. Donc, cette famille typiquement américaine, ouais, on peut déduire des années fin 80 au début 90, fin 90 même. Donc, cette société, famille américaine qui passe beaucoup de temps devant la télévision, à suivre les médias de masse, suivre la vie via la télévision qui est toujours ouverte, qui offre le bruit de fond constant dans la vie tous les jours de la famille. Donc, une petite famille avec des enfants très curieux, très geeks, un qui aime beaucoup la science, l'autre qui aime beaucoup la politique, cette société de consommation, on consomme beaucoup, il y a beaucoup de scènes à l'épicerie, c'est des scènes très colorées, les scènes de l'épicerie, de cette grande épicerie, des grands corridors à perte de vue, couleurs pétantes, et les gens se rencontrent à l'épicerie, hang out ensemble, entre guillemets, se parlent à l'épicerie, vivent des choses. Ouais, c'est typique, un peu over the top, ça en devient très résumé. On parle, ouais, c'est ça. Pour être plus précis, c'est ça, comme je le disais dans mes notes, là, ouais, c'est dans une critique que j'ai trouvée dans The Guardian. Ouais, c'est ça. On me met en évidence que c'est en 85 qu'est mis en scène cette histoire. Donc, ouais. Donc, on peut s'imaginer 85, hein. Reagan dans le paysage à quelque part. Des années d'anxiété, des années de guerre froide. On a peur de la guerre nucléaire, on a peur de l'apocalypse, pratiquement. Déjà là, on parlait aussi des as écologiques. Dans ces années-là, on parlait beaucoup de ça, mais d'une autre façon, d'une autre formulation. Évidemment, on parle de médicaments, de pharmaceutiques dans ce film-là. Ça en devient dramatique. Donc, ouais, on suit bien ces aventures d'un expert, un chercheur sur la Deuxième Guerre mondiale, et puis sa femme qui fait beaucoup d'exercices et qui prend soin des personnes âgées. Donc, c'est typique famille américaine. Et puis, ce film, ouais, a eu du succès au Festival de Venise. Et puis, aucune idée s'il va sortir en salle ici. Parfois, les films, ces temps-ci, la tendance, c'est les films sont achetés et puis ils se retrouvent sur les plateformes en ligne et ils ont une très, très courte vie de salle. C'est un schéma qu'on peut voir ces temps-ci, malheureusement. Et l'autre film qui a vraiment qui a eu du succès et qui a gagné à Cannes, qui a gagné une palme d'or, bien, c'est le film c'est ça, Decision to Leave, de Park Chan-wook. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Et c'est, bon, Park Chan-wook, comme vous savez, je le remets en histoire, c'est lui qui a fait Whole Boy et cette trilogie de vengeance, film de vengeance. Et Decision to Leave, bien, c'est, je pense que c'est son film le plus accompli. Et là, c'est un polar. Et tout repose sur une enquête. Et cette enquête remplie de mystères, remplie de puzzles à essayer de comprendre les cases manquantes. Non, c'est vraiment bien ficelé côté narratif. Et l'esthétique est parfaite. Le design sonore est parfait. Donc, c'est, comme vous pouvez le constater, je suis très subjective par rapport au film, mais trouvez le moment. ça se trouve, ça va se trouver, ce film-là. Decision to Leave, c'est un film qui prend son temps à se développer. C'est un film de 2h18. Et ça se digère vraiment très bien. J'avoue, dans le passé, c'était peut-être un peu difficile à digérer ces anciens films parce que parfois c'est un peu sanglant, parfois il y a des scènes un peu cruelles. Mais celui-là, non, c'est pas du tout dans cette tangente-là. C'est beaucoup plus un film de mystère, un film policier, mais qui parle aussi de la culture actuelle coréenne. Donc, la société coréenne qui est pas facile et puis très différente de l'Occident. Donc, voilà. Oui, le Festival du Nouveau Cinéma, c'était une très bonne année. Il y a aussi le Ho Sang-soo, malheureusement, que j'ai raté de Novelist Film. Si vous avez l'occasion de voir ce film coréen-là, il a eu du succès à la Berlinade. C'est un autre film qui a cartonné, comme on dit. Voilà, c'est ça. C'était une très bonne année. Bon retour en salle. Et puis voilà, Lynn, je te passe le flambeau.
Ben merci, Esther, pour ces belles critiques culturelles. Fait que ça, merci d'avoir couvert le festival parce que c'était super intéressant d'avoir ça en studio.
Oh, l'octobre, hein, c'était le mois de festival.
C'était génial, octobre. Oh my God. Fallait vraiment profiter. J'espère que vous en avez profité, en tout cas.
Oui, tout à fait.
Donc, c'est ça, dimanche, je suis allée voir Moins au sujet de moi, qui a été coproduit par Sarah-Ève Grant et Densité. C'était présenté au studio 303 qui est sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. En fait, ça portait sur le danseur et l'enseignant Marc Boivin. Ça s'intéressait à l'humain sous l'artiste en jouant avec la limite entre le vrai et le faux. Sarah-Ève, ça fait 10 ans qu'elle fait des portraits théâtre comme ça. Elle s'empare du genre du docu-fiction, en fait, pour livrer l'envers d'un décor, les confidences d'une personne et révéler l'infiniment petit sur la scène. En fait, Moins au sujet de moi, c'est une plongée dans ce qu'il se passe quand un artiste enseigne et dédie sa vie à la pratique de la danse. Je voulais vous en parler, mais je voulais pas trop vous en parler parce que ça a été performé du 21 au 23 octobre 2022. Mais ça va être encore performé du 18 au 20 novembre 2022. Fait que vous avez une chance d'aller. Prenez-la, ça vaut vraiment la peine. Donc, comme j'ai dit, le Studio 303, ça se trouve sur la rue Sainte-Catherine. C'est un peu au milieu du centre-ville. Moi, je suis allée un dimanche après-midi, fait qu'il y avait beaucoup d'action dans la rue. C'était le centre-ville de Montréal, comme on le connaît. Mais pourtant, dès qu'on rentre dans le bâtiment du Studio 303, on est vraiment projeté dans un autre espace-temps, je trouve. Là. Encore plus quand on arrive dans le studio, vraiment, parce que déjà, le bâtiment est beau, c'est spacieux, c'est vraiment pas un bâtiment qu'on s'attendrait à ce qu'il soit dans le centre-ville de Montréal. Mais encore plus quand on arrive dans le studio, c'est tellement lumineux, il y a des grandes fenêtres, comme un studio de danse normal, au fond. Puis aussi, ils nous ont demandé d'enlever nos souliers en rentrant dans le studio. Ce qui m'a vraiment fait sentir comme si je revenais chez moi, comme si j'allais à la maison. J'ai trouvé que ça a provoqué un désir d'être vulnérable, d'être confortable, de presque être nu, de s'ouvrir à l'autre et d'être ouvert aussi à ce que les autres allaient nous apporter dans la salle. On n'était pas un très gros public, il y avait plusieurs chaises quand même autour du studio, mais on était peut-être une quinzaine, une vingtaine à être assis sur les chaises. Puis il y avait Sarah Eve qui était assise par terre, il y avait un musicien sur les tambours, il y avait une technicienne au son, puis il y avait Marc Boivin qui était déjà au milieu de la scène, ce qui est très un contraste un peu avec les scènes de théâtre d'habitude où il y a toute cette cérémonie des coulisses, de la personne qui rentre au milieu de la scène. Mais là, tout le monde était là, tout le monde nous accueillait, tout le monde discutait, c'était très... c'était pas cérémonieux, mais c'était agréable parce qu'on se sentait vraiment bien accueillis. Puis en parlant, c'est ça, avec Sarah Eve, la metteur en scène, j'ai appris que, en fait, c'était vraiment un questionnement parce que vu que ça se passe dans un studio de danse, le questionnement, c'était, mais comment est-ce que Marc Boivin va arriver sur la scène? Est-ce qu'on le met dans le vestiaire? Est-ce qu'il arrive par la porte d'entrée comme tout le monde? C'était quand même un questionnement, mais finalement, c'est ça. Ils ont décidé qu'il allait déjà être dans le décor, au milieu du studio. Donc, il a accueilli aussi les spectateurs et les spectatrices au fur et à mesure de leur arrivée. Ça faisait sentir encore plus un air de convivialité, j'ai trouvé. Puis, son décor, ça consistait en... des accessoires de danse, des tirements, une table, une chaise. C'était très sobre, c'était très simple, mais ça marchait vraiment bien. En fait, c'est ça. Je veux pas trop vous décrire le spectacle pour que vous puissiez avoir quand même la surprise. Je trouve que je savais vraiment pas à quoi m'attendre, puis j'ai vraiment été surprise, mais je pense qu'on serait surpris peu importe parce que c'est tellement différent des spectacles qu'on voit d'habitude. Mais c'est ça, je veux vraiment vous laisser la surprise. Donc, je rappelle, il y a les 4 autres représentations le 18, le 19 et le 20 novembre prochain. Vous pouvez d'ailleurs réserver vos places sur le site de Densité. Donc, c'est ça. Si vous voulez assister à cette œuvre, je vous laisse vraiment toute la surprise. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est vraiment d'être ouvert à laisser rentrer Marc Boivin, le celui qui fait la performance dans votre cœur, mais d'une belle manière. Il va pas s'incruster, mais il va tout se glisser tout doucement, de façon très élégante. Et aussi bizarrement, même si c'est un spectacle qui est pas forcément dramatique, c'est pas forcément triste, c'est même pas émouvant de façon évidente, mais ce qui est très spécial, c'est que premièrement, on était des gens de tout type d'âge. Il y avait de vraiment 5 à 70 ans dans la salle. Et j'ai vu beaucoup de personnes, je dirais comme la moitié des personnes, qui ont été émues aux larmes, dont moi.
Wow.
Ce qui est vraiment spécial parce que c'est ça, je peux même pas mettre le doigt sur pourquoi. Mais c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui ont été émues, fait que soyez prêts à ça aussi. Mais ça vaut la peine en tout cas, c'était vraiment comme une bulle de sérénité, une bulle de bienveillance. C'était vraiment une safe place, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Puis après ça, il y avait une petite discussion, un bar ouvert, vous pouvez parler à Marc, vous pouvez parler à sa rêve, c'est vraiment familial et ça vaut vraiment la peine. Et j'aimerais ça que vous nous en donniez des nouvelles si vous y allez, parce que je suis curieuse de savoir comment d'autres spectateurs, spectatrices l'ont vécu. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est quand même très personnel, cette performance-là. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler de Feu la nuit. C'est un groupe qui se donne, d'un groupe de musique, qui se donne pour mission d'exciter votre supplément d'âme par sa stéréotonique New Rave. C'est un trio montréalais qui puise son inspiration dans la New Wave des années 80 et la Dream Pop des années 2000, dans les ambiances hollywoodiennes à la David Lynch, la psychotronique moderne ou les sciences paranormales. C'est des vocabulaires assez éclectiques, mais pour qualifier un très bon groupe. On y décèle d'ailleurs l'urgence métronomique de Malajube, Francis Minot, la voix magnétique et les guitares brûlantes de Mille Monarques, qui est composée de Mathieu Denoncourt et Simon Quevillon, liés dans un éther de synthèse hypnotique. Donc, en fait, ils viennent de sortir leur EP qui s'appelle En Fantôme, dont je vais vous passer deux pièces à l'instant. Donc c'est ça, en 2007, Simon a rencontré Mathieu et le rejoint dans le groupe Mille Monarques. En 2015, Francis a rencontré Simon en joignant le groupe Bernari. En 2017, Mathieu et Simon se retrouvent 5 ans après le dernier spectacle de Mille Monarques pour composer des nouvelles chansons. En 2020, Francis s'est joint au projet et en 2021, le trio enregistre les 3 pièces du EP En Fantôme. Et en 2022, c'est finalement le Feu la nuit qui fait son baptême. Donc, je vous joue 2 pièces de ce trio-là à l'instant. Bonne écoute.
Yes. Production Nuit d'Afrique presents the Nigerian pop star Yemi Alade for an exceptional concert in Montreal. With her powerful voice and energetic performances, Yemi Alade is the new queen of Afrobeat. Don't miss her spectacular concert Thursday, November 10th at the M. Toulouse. Tickets on sale now. For more info, visit Production Nuit d'Afrique.
Les Rencontres internationales du documentaire de Montréal célèbrent leur 25e édition. Une occasion unique de profiter des meilleurs documentaires d'ici et d'ailleurs.
Cet automne, les RIDM reviennent entièrement en salle avec des projections, des soirées festives et plus encore.
Rendez-vous du 17 au 27 novembre prochain dans nos différents lieux de diffusion.
Pour en savoir plus, consultez la programmation au ridm.ca.
Les RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent.
Donc, ce que vous avez écouté avant les publicités, c'était En Fantôme et Parade Fluo de Feu la Nuit, qui viennent de sortir aujourd'hui leur EP qui s'appelle En Fantôme ou Feu la Nuit. Donc, c'est ça. Personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'espère que vous l'avez aimé aussi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aller écouter la troisième chanson, Lila, et la quatrième, qui est un radio edit de En Fantôme. Maintenant, je vais vous parler de Ombre, point d'exclamation, ce qui est très important, ça fait partie de son nom. Donc, en fait, plus de 2 ans après la sortie du micro-album Les Grands Vents, Ombre, point d'exclamation, est de retour avec l'extrait Elle court, qui est annonciateur, d'un EP à venir le 13 janvier prochain. C'est une chanson rock à la rythmique soutenue, aux lignes de guitare mélodique omniprésente et au cœur riche. Elle court, ça rend hommage aux intervenants et intervenantes du milieu de la santé québécois, dont fait partie la conjointe de l'auteur et compositeur Dany Asselin, qui ont tenu le système à bout de bras depuis des années, plus particulièrement durant la pandémie. Donc, en plus de Dany Asselin, qui a la voix, à la guitare et à la co-réalisation, Ombre compte dans ses rangs Franck Caillé à la guitare et à la co-réalisation, Félix Desforges à la basse et Marie Philot à la batterie. Et Francis Ledoux s'est de nouveau joint au groupe afin de co-réaliser cette nouvelle œuvre. Donc, je vous fais écouter ça. Ça s'appelle « Elle court ».
Thank you.
Donc, c'était Elle court de Ombre. C'est une musique super intéressante qui est parue il n'y a vraiment pas beaucoup de temps non plus. Donc, allez écouter ça. Maintenant, je vais vous parler de Miss Sasseur. Miss Sasseur effectue ses débuts en solo avec l'extrait et vidéoclip qui est super magnifique, là, pour vrai. Allez regarder ça avec le vidéoclip qui s'appelle Mon Absence. Et c'est annonciateur d'un album à venir cette fois en février prochain sur l'étiquette LAB. L'autrice, compositrice, interprète Myriam Bois qui poursuit ici sa démarche déjà bien entamée il y a quelques années avec le groupe Miss Sasseur et les Sassises et offre un gospel de ruelles riche et unique qui pige dans une grande variété d'influences allant du hip-hop au classique. Avec Mon Absence, Miss Sasseur ose aborder la mort, sujet souvent évité, voire tabou. C'est vrai qu'on entend pas beaucoup parler dans les chansons, dans la musique en général, mais ici, l'artiste se tient bien loin de l'affliction. Elle pose plutôt un regard positif, lumineux et réconfortant sur ce sujet délicat. Imaginez simplement un proche que vous avez perdu, si c'est pas trop triste pour vous quand même, qui vous chante ses paroles à l'oreille et vous comprendrez le mélange de nostalgie joyeuse qui émane de cette œuvre. Personnellement, c'est exactement ce que j'ai ressenti en écoutant ça tantôt. J'ai bien hâte de vous le faire écouter aussi. Et le vidéoclip, donc, qui est vraiment magnifique également, il est réalisé par Rosalie Bordelot et il a été conçu exactement dans cet esprit. Alors que l'ambiance qui règne s'inscrit en contraste avec la morosité habituelle des cérémonies funéraires qui sont tellement tristes. Et ici, c'est plutôt joyeux, il y a des sourires, il y a de la lumière, c'est vraiment agréable. Donc, Miss Sasseur est à la voix et au piano. Donc, c'est le début de sa carrière solo, comme on a dit, mais quand même, elle s'est bien entourée pour cette nouvelle aventure. On a Valérie Saint-Gelais à la contrebasse, Noam Guerrier-Freud à la batterie, Josiane Rouette à la trompette, Karine Gordon au trombone, Mélanie Belair au violon, Sheila Hannigan au violoncelle, Caroline Dupont à la flûte traversaire, Jessie Nedinger, j'espère que j'ai bien prononcé, aux percussions, et Olivier Lalonde à la réalisation. Donc, ils ont tous collaboré à cet enregistrement qui est riche et très nuancé, mais magnifique. Donc, voilà, en solo, tout comme en groupe, la même mission anime Miss Sasseur, faire du bien et inspirer du beau. Donc, je vous laisse écouter ça.
Que j'empoigne. pleurer mon absence. Je ne suis qu'un film parti. En fait, au fond, quand j'y pense, je suis le début à l'infini.
C'était donc Mon absence de Miss Sasseur. Je vous rappelle encore d'aller voir le vidéoclip qui est disponible sur YouTube, qui est super. Donc voilà, pour la dernière pièce musicale de la soirée, je vous parle de Willows, avec à son actif plus d'une centaine de spectacles au Canada et en Europe, de même que le prix du meilleur album de l'Ouest canadien au Gala Tree Or en 2015. Willows cumule également quelques nominations marquantes, dont pour les Lucins du album folk de l'année et EP folk de l'année au GAMIC, et dans la catégorie autrice-compositrice de l'année au Canadian Folk Music Awards. Donc déjà une carrière assez trépidante. Musicienne et chanteuse aguerrie, on a pu la voir sur scène en tant que membre fondatrice du groupe électropop Chances, comme musicienne et chanteuse dans le spectacle Danse Lassa Danse, ainsi que comme choriste au sein du spectacle Hemenenset de Joran. Son nouvel album Maison Vent verra le jour le 24 mars 2023. Donc soyez à l'affût, c'est dans longtemps, mais gardez ça en tête quand même, on va vous le rappeler. Cette collection de chansons personnelles parle d'abord de femmes. Les femmes de sa vie, autant celles qui l'auront précédée que de son expérience en tant que femme et métisse de la Rivière Rouge d'origine franco-manitobaine, maintenant résidente de Montréal. Je vais vous parler juste de la chanson que je vais vous présenter après, qui s'appelle « Je reviens toujours ». En fait, c'est une mouvance folk aussi méticuleuse qu'envoûtante, qui caractérise le son de Willows. La chanson trace avec sensibilité une voie franche entre le Québec et son Manitoba natal. L'artiste renoue tout en douceur et en pleine conscience avec l'étendue de ses racines en tant que femme métisse de la Rivière Rouge d'origine franco-manitobaine et québécoise d'adoption. Je reviens toujours, c'est en somme la route à perte de vue, le chien sur le siège arrière de la voiture et la radio qui chante de longues heures durant, tandis que défilent les paysages au gré de la transcanadienne. Je reviens toujours, c'est la disparition consentie du fleuve Saint-Laurent, les kilomètres ontariens qui s'étendent pour border les lacs et les forêts, l'arrivée dans le White Shell, les retrouvailles avec les Choke-Cherry Trees, les rivières rouges et Assiniboine, les grands champs qui bercent tout. Cette route relie les personnes et les territoires que j'aime, confie Willows à propos de cette ode à ses origines. Et dans la chanson, il y a une phrase en métier français, qui est la traduction de Lina Légal, dans le pont de la chanson. Ça dit « Les outardes y vont marquer les chemins ». Ça veut dire « Les outardes tracent le chemin ». Et Willows raconte avec transparence qu'elle ressent une connexion à ces oiseaux migrateurs qui partagent leur vie entre deux territoires. Elle dit « Je me sens parfois comme eux, mes allers-retours entre le Québec et le Manitoba sont devenus tellement normaux et essentiels pour moi. J'ai besoin de ces deux endroits pour garder mon équilibre. Ça me rappelle les cycles de la nature et c'est pour ça que j'en parle de la lune dont je reviens toujours. » Comme si le Manitoba m'appelait et m'attirait, c'était plus fort que moi, comme la force de la gravité entre la Lune et la Terre. Elle dit « J'ai fait cette route en auto pour la première fois en sortant de la pandémie. Après presque 2 ans sans y retourner, j'avais besoin de retrouver ma famille, les grands espaces, ce territoire. » Elle dit « C'est là que j'ai pu me plonger dans l'écriture de Maison Vent, qui est donc l'album qui va arriver bientôt. On l'attend au printemps. » Donc là, je vous fais écouter la première chanson qui est sortie de cet album qui s'appelle « Je reviens toujours ». On écoute Willows. Thank you. Je reviens toujours de Willows. Et il y a aussi un clip pour cette chanson-là que je vous encourage à aller regarder sur YouTube et je vous encourage aussi à aller écouter la chanson et à attendre avec impatience l'album de Willows qui va paraître en mars 2023. Donc, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. On vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine!
You understand the drums.
Aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano, el sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
You're listening to 90.3 CK.